Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips.
Nous sommes fin mars 2019 et un certain octogone pourrait éventuellement, sous certaines conditions, se tenir. Tout va bien se passer, détendez-vous, vous écoutez le chip. Bonjour, bonsoir, je suis Kevin Donat et je suis en présence de Mélanie Wonga.
Bonjour Kevin Donat.
Et de François Aulac.
Salut Kevin Donat.
Alors Mel, tu as bravé ta phobie des films d'horreur pour aller voir le dernier Jordan Peele, Us. Raconte-nous ton expérience.
Alors, moi ce qu'il faut savoir c'est que j'ai quand même pleuré devant l'exorciste la première fois que je l'ai vu tellement j'ai eu peur. J'ai refusé de dormir dans ma chambre pendant des semaines après avoir vu Freddy sort de la nuit. Et j'ai jamais pu aller au bout d'un épisode de X-Files ou même des Contes de la Crypte. Donc je suis en gros une flippette.
C'est le terme médical, c'est une flippette.
Ouais. C'est voilà. Et voilà, et j'ai aussi dormi la lumière allumée après avoir vu Bird Box sur Netflix, le truc avec Sandra Bullock. Donc voilà, je pars de très loin.
Surtout qu'il faut pas voir dans Bird Box en plus.
Ben voilà. Mais c'est vrai que moi j'avais très très peur à l'idée d'aller voir Us, le nouveau film de Jordan Peele qui a réalisé Get Out. Mais du coup j'y suis quand même allée for the culture, je me suis dit allez on y va et j'en suis ressortie vivante. J'ai même éteint la lumière après avoir vu le film en dormant.
Fière de toi.
Voilà. Alors moi l'impression que j'ai eue de ce film c'est que je pense que le scénario a été écrit assez rapidement après Get Out. Je pense qu'il est sorti tout de suite de Get Out et il s'est lancé dans l'écriture parce que du coup il y a quelques trucs qui me semblent pas on va dire cuits jusqu'au bout quoi. Les personnages, ils expliquent beaucoup pourquoi ils sont là et ce qu'ils font. Donc en fait, très vite, on comprend pourquoi ils sont là. Et du coup, le fait d'avoir peur, ben quand tu sais ce que les gens font, enfin pourquoi ils le font, t'as moins peur. Donc bon. Mais après, je trouve que quand on vous compare à vous-même, ce qui arrive en fait dans Us, c'est-à-dire que les gens ils disent ah oui, j'ai préféré Get Out ou alors j'ai préféré Us. Donc le mec se fait comparer à lui-même et c'est quand même un grand honneur. Donc je trouve que c'est très cool. Et je trouve aussi que évidemment la performance de Lupita est incroyable. Premier rôle principal pour Lupita après son Oscar. Qu'elle a eu en 2013, quand même. Hein. Mais ouais, elle a vraiment fait un travail sur la voix, sur le corps, qui est assez ouf. Et je pense que c'est elle l'élément le plus flippant du film.
Elle est à la fois, ouais, c'est ce que je veux dire, elle est très très belle et elle fait très 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 peur. Je pensais pas qu'elle pouvait faire flipper. Non, moi j'ai adoré, je suis assez emballé par le film.
Franchement, hein, ouais. Pas mal.
Cette semaine, on a un invité de marque avec nous, Nick Conrad. Bienvenue au chip. Nick, on a à peu près 14 000 questions à te poser.
Okay.
Mais on va faire ça après notre rubrique star, Trash ou Iconique. Alors, c'est moi qui me lance en premier. En fait, j'ai un double iconique. Mon premier, c'est pour TF1. Oui, TF1. TF1 qui veut aborder la question de l'esclavage en Martinique à une heure de grande écoute. Alors, c'est dans Joséphine Ange Gardien. Joséphine, cette fois-ci, elle va voyager dans le temps et arriver en Martinique en 1832. Et elle va aider un jeune esclave accusé à tort d'avoir brûlé son habitation ou plantation, comme on dit ici.
Un jeune esclave est accusé injustement d'avoir incendié une habitation. Mais un ange gardien lui permet d'échapper à son triste sort.
On se demande, à chaque fois qu'on crée une nouvelle histoire, on dit qu'est-ce qui justifie la présence d'un ange gardien ? Qui a besoin d'aide ? Qui est forcément quelque chose de l'ordre de l'injustice ou quelque chose de très fort que Joséphine va aider. Et en fait, lors d'un déjeuner, on s'est dit « Oh, il faut absolument qu'on aille en Martinique ». Et ça a correspondu à une envie de l'auteur qui voulait depuis longtemps parler de l'esclavage.
Dans qui parle ?
Alors là, on vient d'entendre Laure de Kervadoué, la productrice artistique de la série.
Okay.
Des commentaires à chaud ?
je suis sans voix, je te laisse continuer.
Alors, Mélanie, tu voulais peut-être non ?
Non, lol. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. C'est bon.
Alors, moi, j'ai pas encore vu l'épisode. Je salue juste l'intention. Je suis un optimiste, donc bravo pour l'effort. Parler de l'histoire des Outre-mer, ça mérite d'être salué. Mais en vrai, je suis un peu surpris que ce soit Joséphine Ange Gardien qui s'en occupe.
Mais moi, je croyais qu'ils allaient dire qu'elle remonte dans le temps, dans la peau d'une esclavagiste qui libère ses esclaves, un truc comme ça, quoi. Mais non elle vient vraiment faire la white savior pour libérer les esclaves.
Même
quoi.
Ça, j'en ai peut-être.
Tu me coupes l'herbe sous le pied. J'allais dire que le discours de l'ange gardien, ça peut être mignon, Mais pour l'esclavage, il y a tous les clignotants qui s'allument, sauveuse blanche, white savior, tout ce que vous voulez. J'imagine déjà le dénouement où le jeune homme va trouver la liberté avec un happy end un peu mièvre. Donc rien de très original, rien de très dangereux.
Et donc ça, c'est ton iconique ?
Attends.
Si on veut big upper TF1, en plus pour parler des Antilles, vaut mieux parler de François Ladrozo, de Aquillo.
Est-ce que je peux continuer ?
Ok, oh, d'accord.
Okay,
en vrai, je suis content parce que ça va donner du boulot aux techniciens locaux et c'est bien dans l'absolu qu'il y ait plus de fiction qui se tourne en Martinique et dans l'Outre-mer en général. Et c'est déjà ça. Mais si Joséphine est sympa et qu'elle a des pouvoirs magiques et qu'elle les libère, c'est cool. Mais on rappelle quand même que l'esclavage, c'est un système et qu'il y avait des lois qui s'appliquaient à tous et à toutes. Donc elle le sauve très bien. On va imaginer qu'à la fin, ça se termine plutôt bien. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'elle lui trouve un taf ? Est-ce qu'il touche des réparations ? Est-ce qu'il reste en Martinique ? Est-ce qu'il rentre en France avec elle ? Est-ce qu'ils se marient ? Est-ce qu'ils font des bébés café au lait ? Enfin bref, j'ai plein de questions. Toujours est-il que je crois que je suis un peu hypé par cet épisode. Donc pour une fois, je regarderai Joséphine Ange Gardien et je vous tiendrai au courant.
Un petit Instagram tweet
si je valide.
Ça sort dans un an, c'est ça, un truc comme ça là,
ah, le tournage j'aurais du mal à patienter.
Le tournage...
Le tournage est en cours.
Ouais. Est en cours.
Ensuite, j'ai un autre iconique, mais là, je vais être plus court. C'est sur une autre Joséphine, la Baker, cette fois-ci. Ça s'appelle Joséphine Baker, première icône noire. Et c'est réalisé par Ilana Navarro.
Les Parisiens n'avaient jamais vu ça. Ce n'était ni du ballet, ni du burlesque, ni une danse tribale. C'était l'esprit du temps. Le rire, le désir, la liberté.
Le soleil.
Face à ce public blanc, Joséphine jouait sa vie.
Alors, chanteuse, danseuse et comédienne, donc elle avait plein de facettes
résistante.
et de talents variés. Ouais, c'était aussi une femme d'action, c'était une résistante pour la France libre, et puis aussi une militante pour les droits civiques. Elle était adulée en Europe, même si dans le documentaire, on montre bien que c'était compliqué. Tu l'as vu, Mel ?
J'ai vu la moitié.
Ok, est-ce que tu as vu le début où elle va à Prague et à Vienne ? Et les réactions du public qui sont assez malaisantes. À Prague, tout le monde veut la toucher. Ouais. À Vienne, c'est le contraire. Il y a toutes les églises de Vienne qui se mettent à sonner leurs cloches pour avertir la population de rester enfermée.
Parce cachez vos yeux.
Il y avait la Baker qui arrivait. Donc ça montre que tout n'est pas parfait en Europe et en France, pareil. Mais elle va longtemps aux États-Unis, donc sa terre natale, se heurter à la ségrégation. Il y a plein d'images d'archives, de super haute volée, et ça insiste bien sur son engagement politique. Ce n'est pas que l'image des années folles de la jeune femme qui danse avec la jupe de banane autour de la taille, c'est aussi quelqu'un qui s'est engagé en politique, etc. etc. Regardez ça, c'est encore disponible quelques jours, c'est sur Arte et sur YouTube, c'est disponible donc jusqu'au dimanche 31 mars, ça dure 53 minutes et c'est vachement bien.
Alors, pour le trachico des réseaux cette semaine, on a parlé beauté. On vous a demandé de choisir un peu dans quelle parfumerie vous allez vous fournir. Notre sondage demande cette semaine ce que l'annonce de Sonia Roland en tant que nouvelle égérie Guerlain vous évoque. On se rappelle tous de la sortie raciste en 2010 de Papy Jean-Paul Guerlain sur le plateau du 13h de France 2.
Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin... Ça...
Ah voilà, c'était bien cette époque. Hein. Donc là, on est 9 ans plus tard et une femme noire connue devient égérie de la marque Guerlain. Donc on vous a demandé ce que vous en pensiez. Donc il y a 210 personnes qui ont pris le temps de nous répondre sur Twitter. À 41% trash, non à Guerlain. À 26% iconique, réparation. Et à 33%, non, on va plutôt attendre Fenty Luxe. Je sais pas, vous, ça vous évoque
quoi ? T'aurais voté quoi, toi, Annick ?
Bah, j'aurais voté non.
T'aurais voté non ?
Ouais.
Pourquoi ?
Bah, parce que je peux pas... Enfin, je peux pas faire ça.
Tu cautionnes pas ?
Bah non, absolument pas.
Mmh.
Et vous ? J'avoue que j'ai pas trop suivi la polémique, en fait. J'ai pas d'opinion. Je pense que elle struggle, elle fait son beurre. Et puis...
Moi, j'ai une opinion plutôt intermédiaire. Ensuite, je veux pas marcher sur tes plates-bandes.
Après, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Mais
j'ai lu le papier de Isabelle Bonny Clavry.
Ouais.
Tu voulais en parler ?
Je vais en parler, mais vas-y.
D'accord, non, mais vas-y, dans ce cas-là, je te laisse te lancer.
Ok. Moi, personnellement, alors, Je suis plutôt contente que les choses évoluent, parce que Andy Crispy sur Twitter nous l'a rappelé. Esther Kamatari, pardon, princesse du Burundi, avait déjà été promue égérie de Guerlain en 2015. Donc en fait, Sonia Roland n'est pas la première femme noire égérie de la marque. Ceci dit, moi je me rappelle encore de la rage que j'ai ressentie au moment de l'affaire. En fait, j'étais vraiment très très choquée. Et même si à l'époque, il y en avait certains qui avaient plaidé la sénilité, comme quoi il était vieux et que voilà, qu'il faisait plus partie de l'entreprise. Et même si derrière, Jean-Paul Guerlain a été condamné à 6000 euros d'amende pour un jeu raciste, je peux comprendre qu'aujourd'hui, certaines personnes ne veuillent pas donner leur argent à cette entreprise ou croire aux efforts sincères de la marque envers la communauté noire. Parce que c'est ça aussi qu'il faut souligner. En tant que journaliste, je vais en parler. Guerlain et LVMH soutiennent financièrement une unité de la drépanocytose de l'hôpital Robert Debray dans le 93. Donc la drépanocytose, on sait que c'est une maladie qui touche principalement les personnes noires. Et Guerlain a aussi, entre-temps, depuis 2010, créé une ligne pour les pommades et donc a deux égéries noires. Donc moi, personnellement, ça me met mal à l'aise d'attendre les miettes en fait, d'une entreprise qui, jusqu'à un scandale d'image, n'avait rien fait en, fait, en termes d'inclusivité ou de respect de la communauté noire. Quoi. Moi, personnellement, ça me dérange. Après, même si depuis, ils ont fait des efforts, ça ne veut pas nécessairement dire que moi aussi, je veux donner mon argent à Guerlain. Après, là où ça se complique, c'est que l'entreprise est détenue par le groupe LVMH, qui détient aussi, entre autres, Sephora et Kendo, la maison mère de Fenty Beauty et de beaucoup d'autres marques de beauté.
Bref. Donc en fait, il y avait deux réponses piégées. Quoi.
C'est très compliqué. Et c'est une affaire complexe, mais moi aussi, je vais me ranger avec la majorité. Je ne suis pas prête à croire vraiment aux efforts de Guerlain et je ne suis pas nécessairement prête à donner mon argent.
Vous connaissez Prince Wally, le rappeur ?
Ouais.
Ouais, il a une phase marrante sur son morceau Doggy Bag où il dit je me fonds dans la foule comme un BM dans Berlin, j'arrive sur toi comme Chamberlain, les faux négros sont dans Guerlain. Voilà. Wow. Je voulais... Donc du coup pour cet épisode, c'est toi qu'on reçoit, Nick, on est très content de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je t'en prie.
Donc il y a pas mal de sujets qu'on aimerait bien balayer en ta compagnie et avoir un peu ton regard sur certaines choses. Mm-hmm. D'abord, je vais commencer un peu par te présenter. Donc tu as 35 ans si je me trompe
35
pas.
35 ans, ouais.
35 ans, tu es originaire de Noisy-le-Grand. Donc tu as des origines camerounaises. C'est on ça. En parlait un peu avant l'émission. Tu as une formation au conservatoire également.
Alors, j'ai fait du conservatoire étant plus petit. Ouais. Mais ça a pas duré très longtemps, j'en ai fait pendant 4-5 ans.
D'accord.
Et puis voilà.
D'accord, donc t'as quand même une formation classique en musique et t'as commencé à faire de la musique plutôt jazzy, c'est ça ?
En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. En fait, à la base, mon père est mélomane, tu vois. Mm-hmm. Je suis issu d'une famille de mélomanes où on écoute beaucoup de musique afro-américaine, du jazz notamment. J'ai écouté beaucoup de jazz étant petit, de la soul, enfin toute la musique noire, on peut dire.
Ouais.
Mixé avec de la musique africaine, forcément, avec de la musique qu'on peut écouter un peu partout, enfin, de la variété française, choses comme ça. Donc ouais, j'ai bercé dans un gros vivier musical, tu vois. Ce qui m'a j'ai tout de suite kiffé sur le jazz en fait, étant plus petit, tu vois. Donc des gens comme Duke Ellington, Nat King Cole, Art Tatum, tout ça, au cuivre aussi, pour le côté africain, des gens comme Manu Dibango, voilà. Donc du coup j'ai envie de faire ça, tu vois, très jeune. Donc effectivement, alors je presse un peu mes parents, tu vois, pour qu'ils m'inscrivent au conservatoire, etc. Donc j'en fais, mais quand je me heurte du coup à la théorie classique, bah du coup je me rends compte que c'est du classique et c'est pas ce que je veux faire. Tu vois, moi je veux faire du jazz, tu vois. Ouais. Donc on m'apprend à lire la musique, etc.
Ouais, faut maîtriser un peu le solfège.
Voilà, donc du coup c'est ça. Mais moi c'est voilà, c'est ça. Mais du coup j'avais pas compris ça, moi je voulais faire du jazz tout de suite. Tu vois. Donc on apprend du Brahms, du Handel, du Mozart, du Vivaldi, enfin tout le classique, quoi, tout le répertoire classique. Et vite moi ça me saoule en fait. Tu vois, parce que je veux faire du jazz, tu vois. Et donc au bout de quelques années, donc j'arrête. Après avoir fait des cuivres, tu vois, donc j'ai fait du saxo, de la trompette, du tuba. Et quelques années, en fait, l'année où j'arrête, il est assez drôle, mais je vais avoir mon premier coup de cœur musical générationnel. C'est-à-dire qu'en fait, moi, de base, je kiffe sur le jazz, tu vois.
Ouais.
Mais il y a un truc qui va arriver, un morceau qui va arriver, ça va être Bouche de là, d'MC Solar.
D'accord.
Ouais.
et je veux me rendre, enfin ça va m'interpeller.
Ça m'étonne pas, ouais, c'est très, il y a un côté jazzy.
Ouais. Et je veux dire, waouh, c'est quoi ça?
Il était sous perfu de gourou et jazzmateuse. Hein, ouais. Voilà. D'ailleurs, il a fait le morceau avec eux, le bien et le mal. Ça
voilà.
Impacté.
Voilà. Donc du coup, j'ai kiffé sur ça et il va se falloir quelques années de plus pour que je comprenne le délire, tu vois, que je comprenne que le rap que je vais kiffer à mon époque va être un savoureux mélange de cette poésie urbaine et finalement du jazz d'antan. Tu vois. Lorsque je vais avoir un, je sais pas, un peu plus, être un peu plus âgé dans les 90, etc., je tombe sur un album, je vais me dire, je veux faire du rap.
D'accord.
Et cet album-là, c'est The Main Ingredients de Pete Rock and CL Smooth.
D'accord, ouais.
Et quand je découvre cet album, je reconnais en fait tous les samples. Tu vois, que mon daron, il écoutait quand j'étais beaucoup plus petit. Et je me dis, c'est ça que je veux faire, tu vois. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé au rap par le jazz, en fait. Tu vois.
D'accord, voilà. Ouais, je comprends. Ouais.
Le truc habituel, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est les gens qui font... J'écoutais beaucoup de hip-hop, j'ai commencé à m'intéresser au sample et je suis arrivé au jazz. Ah, okay. Toi, c'est non ?
C'est comme ça que j'ai fait ce chemin inverse-là aussi.
D'accord, ok.
Et donc... voilà, en septembre 2018, c'est aussi une raison pour laquelle on te reçoit.
Ouais.
C'est là où tout le shitstorm un peu, on va dire, a commencé. Tu t'es tourné déjà depuis quelques années à ce moment-là vers un style de rap, on va dire, plus contemporain,
ouais,
et notamment plus dur, plus engagé dans les textes.
Mmh.
Et tu fais donc ce clip qui s'appelle Pendez les Blancs.
Je rentre dans des crèches, j'ai des bébés blancs. Attraper les vides et pendre leurs parents. Écarte les pour passer le temps. Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands. Fouettez l'effort, faites-le franchement. Que ça pue la mort, que ça puisse le sang. Pendu aux arbres dans le vide sidéral. Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant.
Le clip est assez dur puisqu'on te voit mettre si je me souviens bien, à un moment tu mets la tête d'un homme blanc contre le bord du trottoir et puis tu t'apprêtes à lui mettre un énorme coup de pied.
Mmh.
Bref, en gros, il y a beaucoup de scènes de violence. Il y a une ambiance un peu pas post-apocalyptique, c'est pas le mot que j'emploierais, mais un peu en mode violence urbaine. J'essaie de me souvenir un peu de mémoire parce que le clip a été retiré très vite de YouTube.
C'est vrai.
T'as pas une sorte de gilet noir?
Non, j'ai une tunique d'ailleurs, que j'ai fait broder, c'est très beau matériel.
D'accord, j'avais l'impression c'était une sorte de gilet à la The Warriors. Tu vois le film The Warriors?
Oui, je vois, mais non, c'est pas du
tout. J'ai fait
confectionner du coup pour les besoins de ce clip. Ouais, ouais.
D'accord.
Une tunique, tu vois, avec des belles broderies, avec des drapeaux africains, etc.
D'accord.
Et
donc, le clip tout de suite fait une énorme polémique. On sait pas comment il remonte et comment il fait le buzz, mais en tout cas, tout de suite, les médias s'en emparent. Et là, c'est une sorte d'énorme shitstorm, à la fois politique et médiatique.
C'est un rappeur qui s'appelle Nick Conrad. Inconnu au bataillon, ce rappeur.
La soifée de bœuf.
Un clip insoutenable, haineux.
D'abord, c'est pas du rap.
Pervers, lamentable, inaudible.
Totalement identitaire.
C'est l'escalade verbale, c'est l'incontinence verbale.
La provocation, peut-être, vous avez raison, d'un pauvre type qui a cherché un moyen pour faire le buzz.
Donc des plaintes sont déposées contre toi, tu te retrouves devant la justice, et donc ton procès a eu lieu en janvier dernier. Les parties civiles, c'était la LICRA, donc la Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme, et la GRIF, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne.
Attends, je peux juste interrompre.
Vas-y.
Nick Conrad, y a un problème, non? On est d'accord, ok.
J'ai vu beaucoup de journalistes un peu struggler avec ton nom.
Ouais.
Bref, pendant le procès, je passe rapidement dessus, on va pas refaire le résumé, mais en gros... toi, tu fais valoir le fait que le clip et le morceau sont une fiction, une métaphore, une sorte d'inversion des codes du colonialisme et du racisme, des codes du lynchage, par exemple, notamment, dont les Noirs ont été et sont même encore victimes dans certaines parties du monde aujourd'hui. La partie civile, elle, invoque l'appel à commettre des violences, l'appel au meurtre des Blancs, tout simplement. D'ailleurs, tu commences ton nouvel album, La Révolution 2.0, par ceci est une fiction. C'était un peu ironique, j'imagine. Et bref, c'est finalement la GRIF et la LICRA qui ont gain de cause devant le juge, puisque tu es condamné à 5000 euros d'amende avec sursis, plus 1000 euros de dommages et intérêts. Ouais. T'as perdu ton job également dans un hôtel de luxe, dans la polémique.
Ouais.
Tu t'es pas mal fait traiter de raciste anti-blanc. Pendant le procès, les parties civiles évoquent la victimisation des Noirs et de l'Afrique, mais de manière un peu ironique. Il y a une incompréhension clairement manifeste du message que tu essayais de faire passer dans le clip. Ma première question, déjà, comment est-ce que tu as vécu le procès de l'intérieur? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et puis surtout, comment tu te sens après ce verdict qui a été en ta défaveur?
Alors, ça a été un déferlement, un ouragan d'émotions, tu vois. Mais heureusement, tu vois, encore une fois, que j'ai la musique pour pouvoir éponger ce que je ressens, pour pouvoir essayer de le retranscrire d'une manière autre. Mais effectivement, ça n'a pas été une étape entièrement facile. Mais en même temps, quand t'écris un morceau comme celui-là, déjà, pour commencer, je veux dire que pour écrire un morceau comme celui-ci, c'est pas un morceau qui est facile à écrire. Ça, c'est la première des choses. Qu'on ait des convictions, qu'on représente quelque chose ou pas, c'est pas un morceau qui arrive comme ça. Et je pense que justement la France, dans le pays dans lequel nous vivons, c'est quand même un pays de personnes lettrées, etc. J'ai vu des personnes, tu vois, pendant l'hémicycle faire de brillantes allocutions sur la France, etc. qui n'ont pas compris ce morceau, alors que pour moi, il est facile à comprendre. Il y a trop de références cinématographiques, trop de références culturelles pour qu'on passe à côté de la vérité. En fait, ce je l'ai dit, hein, je peux le redire ici, mais ce texte, cette chanson, elle a un message, tu vois, elle a un message de regarder, tu vois, regarder ce que je vis, regarder ce que aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé il y a de nombreuses années, on est quand même amené à vivre au quotidien, parce qu'il y a des relents de ça, il y a les relents de l'esclavage, il y a les relents du racisme qui perdurent aujourd'hui, qui font que finalement, on n'est pas tous traités sur un même pied d'égalité. Tu vois, donc c'était ça le message premier de ce morceau-là. Si on en vient à l'écrire, c'est quand même que j'ai 35 ans, tu vois, des choses j'en ai vu dans ma vie et j'ai continué à en voir, tu vois. Quand je décide d'écrire ce morceau, c'est parce qu'il m'arrive un truc au taf que je peux pas tolérer. Dans la mesure où je suis passé, il faut dire qu'à l'époque, il y a beaucoup moins de Renois qu'il y en a en France aujourd'hui, tu vois, je vais à l'école, on est genre deux dans la classe, enfin tu vois, c'est pas exactement comme aujourd'hui. Donc le racisme est encore plus fort qu'avant. Tu vois, du fait qu'on nous voit plus aujourd'hui, on mettra des pincettes, tu vois, dans la façon de dire les choses, alors qu'avant c'est pas comme ça. Moi, je grandis dans un climat qui est vraiment hostile.
T'as grandi à Noisy ?
J'ai grandi à Noisy. Okay. À Noisy. Je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Noisy. Okay. Alors, certes, c'est pas tout le monde n'est pas raciste, tu vois, mais je veux dire les petites blagounettes sont plus virulentes que maintenant. Tu peux pas te permettre parce qu'en grandissant, on s'est fait des potes rebeux, tu vois, on est tous un peu différents.
Mais l'époque a changé aussi. Hein, l'époque a peut-être changé aussi.
L'époque a changé, mais avant les choses sont plus fermes. Il y a les skinheads qui sont effectifs quand moi je grandis, ouais. Tu vois. Donc il y a plein de choses qui ont changé en France, tu vois. Mais moi je peux pas considérer, tu vois, que quand j'écris ce morceau, s'il m'arrive un truc au taf, où le mec il me prend clairement pour un esclave, tu vois. Et je me dis, putain, j'ai fait tout ce chemin à l'âge que j'ai, encore ce genre de truc, tu vois, qui me ramène à un truc que j'avais 15 piges, tu sais. Même je peux comprendre des fois, tu vois, ces gens qui dans l'adolescence envoient tout foutre en l'air parce que finalement la société n'a pas envie de les reconnaître, tu vois. Et donc c'est un morceau qui, au lieu d'avoir été mal perçu, aurait pu, si voilà, comme on prétend l'être en France, si on avait été un peu intelligent, se poser un peu, tu vois, à réfléchir sur le truc, pourquoi ça a été écrit, qu'est-ce que ça soulève comme débat, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça, l'histoire de ce morceau-là.
Et finalement, le verdict, il est implacable, et c'est un peu comme si les parties civiles et la justice, finalement, te niaient ta réalité. Du coup, après la polémique, beaucoup de shitstorms sur internet, dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses, t'as dû recevoir des tas de messages à la fois de soutien, j'imagine, mais aussi de haine. Il y a des rumeurs qui courent sur toi, il y a des gens qui disent sa meuf est blanche et donc du coup il est pas légitime pour parler de la cause noire. Il y a des gens qui disent c'est un fils de diplomate, donc je sais pas quoi, comme si tu serais moins légitime. Inversement, t'as des gens qui utilisent le hashtag support Nick Conrad pour montrer leur soutien à ta personne. Bref, comment est-ce que tu gères un peu la vague des réseaux sociaux?
Écoute, là, c'est les réseaux sociaux, c'est une affaire, c'est pas la vraie vie. Déjà, faut commencer par le dire. Mais néanmoins, il y a des vraies choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux sont aussi, si on décide de s'en servir correctement, une vraie force. Tu vois, une vraie force qu'il faut être, je pense, intelligent pour pouvoir essayer de faire s'élever des vrais messages, tu vois. Alors après, tu vois, tu passes sur plein de trucs.
Je te demande pas de répondre aux rumeurs, mais comment tu gères la vague, quoi.
Je le gère, disons, d'une manière un peu nouvelle, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu il y a un avant PLB et puis un post PLB, tu vois. C'est sûr que ma vie n'est pas la même depuis
du jour au lendemain.
Voilà. Il y a plein de choses qui ont changé, même dans la rue, etc. Enfin, donc les messages, tu vois, moi j'y fais pas attention, tu vois, même durant le procès, mon avocat a voulu invoquer ce truc-là, mais moi, je suis parti du principe, et je l'ai dit, pour moi, le racisme n'est qu'une idiotie, en fait, qui s'appuie sur la peur de l'autre. Tu vois, pour moi, le racisme, c'est ni plus ni moins que ça. Tu vois, c'est la peur de l'autre qui te fait avoir un comportement bizarre. C'est ça, le racisme.
c'est pas plus compliqué que ça pour moi.
Ça va un peu plus loin que ça pour moi, mais je vois ce que tu veux dire.
C'est la base du truc pour moi, tu vois. C'est la méconnaissance de l'autre, tu vois, qui peut bien sûr engendrer d'autres choses, tu vois, qui sont.
Comme une volonté de pouvoir sur l'autre aussi.
Absolument, bien sûr. Mais c'est la peur de l'autre, la base, pour moi, tu vois.
Je suis d'accord.
Et voilà. Et donc, du coup, après ça, moi, ce que je dis, c'est que ça, je préfère mettre de côté, tu vois. Ce racisme-là, pour moi, il est idiot, comme je l'ai dit, tu vois. C'est la peur, c'est une idiotie, en fait. Tu vois, c'est une idiotie que je préfère ne faire l'impression de voir pour l'instant. La personne prendra le temps. Je pense que lorsqu'il y a un changement qui doit s'opérer chez quelqu'un, ça doit venir d'elle-même. Tu peux pas changer une personne, toi, peu importe ce que tu fais sur cette personne. C'est que l'éveil doit se faire dans sa tête de manière individuelle, tu vois.
Prise de conscience.
Voilà. Et du coup, viendra le temps où certaines personnes comprendront. Et je préfère m'arrêter sur les personnes qui ont déjà compris, tu vois.
D'accord.
En ce qui me concerne, c'est ça.
Ouais. Tu vois, mentalement, voilà. T'as fait le filtre,
voilà.
C'est ça.
Je suis obligé.
Parce tu veux que pas aller prêcher les gens qui n'ont pas compris et leur faire un cours.
Non, enfin, je peux essayer de le faire, tu vois. Je peux essayer de. Enfin, ma musique le fait, enfin, tu vois. Ma musique le fait, ma musique en parle. Après, comme je dis, si tu préfères rester dans ton idiotie, tu continueras de penser que. Tu vois.
Une petite remarque. Là, tu parles surtout, voilà, des gens qui sont dans une sorte d'idéologie raciste, notamment, ben, beaucoup, en majorité, des personnes blanches. Il y a quelques mois, au moment où l'affaire a explosé, on avait déjà fait un sondage, un trachicot des réseaux, comme on a fait tout à l'heure, tu sais.
Ouais.
Dans le chip, à propos justement de ton clip, il y avait une partie des gens qui nous écoutent qui disaient non, c'est pas acceptable. Il y a aussi des noirs en fait qui trouvent que t'es allé trop loin, même ces gens-là. Tu les prends comment, ces retours-là?
Alors, ça, j'ai parlé. Bon, après, je peux pas tout mettre dans le même sac, mais je pense que la communauté noire en France aussi, parce que c'est aussi un problème français, n'est pas si au fait que ça de ce qu'est la douleur noire. En fait, on s'accommode de bien des choses parce qu'on a été on a grandi comme ça. On a pensé, je sais pas si c'est à tort ou à raison, que c'était la seule voie, que c'était la seule manière de pouvoir se faire accepter. C'était
de l'assimilation, de l'intégration.
Ça peut être ça.
L'intériorisation aussi d'une certaine norme.
Ça peut être ça. Et du coup, d'accepter un peu tout et n'importe quoi et de ne pas, enfin, de blâmer le noir. Enfin, c'est un peu pour moi, on retrouve les codes de l'esclavage dans ce qui s'est passé avec PLB. Enfin, je veux dire, avec quand la polémique de PLB explose. Ouais. Je me rends compte qu'il y a encore des choses qui sont effectives, qui datent du XVIIIe siècle, quoi. Tu vois. Et c'est ça.
Pendant ton procès, tu fais beaucoup de références à la pop culture. Tu invoques des références cinématographiques comme Get Out ou La Haine, qui n'ont pas toujours été bien comprises. Mélanie, tu avais des questions à propos de ça. Tu voulais un peu savoir.
Moi, j'aimerais évoquer en fait les références de PLB, parce que lors du procès, on en a parlé, mais ça semble toujours avoir échappé à quelques personnes.
Ouais.
J'ai relevé notamment le live tweet du procès réalisé par la journaliste Sia Masbag sur Twitter, où elle relevait un échange que je trouvais assez révélateur, donc où la cour disait « Il y a beaucoup de références dans votre clip, les Français ne les connaissent pas forcément. » Et vous répondez « Mais vous voulez dire que les Français ne sont pas cultivés ?» Du coup, la phrase que tu disais à la fin, c'était « Mais moi, si je connais ces références, pourquoi pas eux ?» Alors moi, ce que j'aimerais qu'on fasse là, c'est que je lise quelques paroles de la chanson et que tu nous parles de la référence et de ce qu'elle représente
pour
toi.
Très bien, très bien.
Ok, donc bouche de blanc écartée sur un coin de trottoir, écrasement de tête mortelle pour leur casser les dents, balle dans la tête, c'est donc ça qu'ils aiment tant. Black History X, ça n'est que le commencement.
Alors du coup, voilà, là c'est la séquence bête et idiote de American History X, simplement.
Put it on the curb right now. That's it.
Jack, no!
Now say goodnight.
Whoa. Ma mère. J'ai eu des images.
C'est quand sculpte.
Avec le bruit. Alors, du coup, je t'interromps juste là-dessus. Alors, tu vois, après toute cette polémique, j'ai eu la possibilité de discuter avec bien des gens, etc. Et il est vrai que dans la communauté, malgré le fait qu'on n'en ait pas vraiment parlé, c'est une scène qui a choqué énormément de monde, tu vois.
J'ai vu au collège.
Ouais, voilà. Lycée, moi, je l'ai vu au lycée.
Je l'ai vu au lycée
et c'est une scène qui a traumatisé bien des gens qui appartiennent à la communauté noire. Et du coup, j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec un journaliste encore qui me disait que c'est une scène qui l'a profondément marqué. Genre, c'est un truc qu'il a pendant une semaine, il voyait le truc. tu vois. Et du coup, voilà, bah, c'est ça aussi. C'est-à-dire que moi, étant enfant, j'ai dû prendre ce choc. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû prendre ce choc. Et si je fais le choix, comme je te dis, alors que c'est pas facile à faire, de renvoyer ce choc, c'est pour une raison. Tu vois?
Voilà. C'est marrant, la seule scène que j'ai citée quand je décrivais ton clip, c'était celle-là. Ouais. C'est celle qui m'a. J'ai pas vu American History X, okay. Mais c'est la scène qui m'a le plus marqué.
Ouais. Moi, je l'ai vu la semaine dernière, du coup, en préparant l'émission. Ouais. Et effectivement, c'est un truc très choquant. Et pourtant, il y a un cut au moment où l'action arrive.
Exactement.
On voit pas quoi.
C'est juste ouais. Mais l'effet
est quand même incroyable. Choqué, quoi. Le deuxième exemple que j'ai relevé, que je trouve intéressant, c'est pendu aux arbres dans le vide sidéral, que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant, macabre, effrayant, vice comme ils se meuvent.
Ouais, Billie Holiday.
Voilà.
Ouais. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves. And blood at the root.
Ouais, donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Billie Holiday?
C'est surtout ce titre-là, quoi. C'est Strange Fruit, c'est le fruit étrange, quoi. C'est le fruit étrange. Le fruit étrange, pourquoi? Parce que c'est un corps suspendu dans le vide sidéral, c'est un fruit bizarre, tu vois. Et les arbres sont supposés produire des fruits, pas des cadavres, tu vois. Donc c'est cette idée-là.
Ouais. Après, ce qui me choque un peu, c'est que ces images-là, elles ont été produites par les États-Unis, mais en vrai, c'est aussi arrivé en France, en fait. Enfin, l'esclavage et le meurtre de personnes noires, c'est arrivé.
Sans remonter jusqu'à l'esclavage, les ratonnades de très contemporaines depuis les années 60, 70.
Oui, mais en fait, il y a vraiment cette dissonance cognitive où les gens nous renvoient en disant mais non, mais ça c'est aux États-Unis.
Voilà. Alors moi, c'est aussi le truc contre lequel j'ai dû me battre un peu parce que oui, mais c'est une culture américaine, c'est pas l'autre. Alors du coup, tu vois, là, parce qu'on est aussi là pour faire la promo de l'album, mais dans Révolution 2.0, t'as un skit, tu vois, qui s'appelle Le bourdonnement des colibris. Et du coup, qui parle un peu de ça. C'est-à-dire que on a cette fâcheuse tendance en France, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'en fait, c'est juste ça qu'on attend tous. C'est de pouvoir faire table rase de plein de choses en discutant. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont sur des plateaux dans des émissions radio que j'ai entendu dire oui, mais alors que ça va un peu mieux entre nous aujourd'hui, on est quand même en 2019. Pourquoi est-ce que cet artiste, en plus il est pas très bon, se permet de retourner sur les trucs du passé, ça appartient au passé? Non. Alors là-dessus, moi j'aimerais clarifier les choses une bonne fois pour toutes. C'est un peu comme si, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris l'exemple d'un paquet un peu lourd qu'on a laissé sur le côté pour que finalement ça finisse par aller pour tout le monde. Non, ça va pas pour la communauté noire. En fait, même si il y a un truc qui a été déposé en arrière, l'homme noir avance toujours. C'est un peu comme s'il était sans âme. Voilà, il a besoin de se retrouver. Et pour se retrouver, il va falloir qu'on ouvre ce sac, qu'on dissèque ce qu'il y a à l'intérieur comme souffrance, qu'on puisse en parler pour que chacun puisse avancer librement. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand je dis qu'on écope encore de ces maux, de ces douleurs qui appartiennent au passé, je sais pas, quand tu prends les transports en commun, bon, je suis habillé comme je suis habillé, il y a une grand-mère qui est là, ça va s'accrocher à son sac, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis en train de fumer ma clope devant une porte Digicode, le monsieur ferme la porte pour que je parle dans le bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelque chose qui est négatif et qui accompagne la couleur de peau noire. Ça, il faut le traiter. Ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants demain et que mes enfants subissent encore ce genre de truc, en fait. Ça, il faut pouvoir en parler, en fait. Et c'est pas qu'un truc américain, c'est un truc mondial, en fait.
C'est juste que les Américains en parent de manière beaucoup plus
libre. À travers leur culture.
C'est pas les mêmes combats aussi. Il faut dire que les Noirs américains ont quand même essuyé pas mal d'émeutes, ont monté des groupes. Voilà, on subit le truc de manière plus violente que la nôtre, mais en même temps, c'est pas la même chose. Il est vrai que qu'en Europe et aux États-Unis, c'est deux histoires différentes. Ceux que sont devenus plus tard les Afro-Américains sont d'abord les Africains, mais qui ont été amenés de force sur un territoire. Une fois qu'ils ont été déracinés, où est-ce qu'ils vont retourner? Nous, on a la possibilité en France, et c'est ça aussi peut-être notre chance, de savoir d'où nous venons, Tu vois, tout à l'heure on en parlait, moi je suis allé au Cameroun il n'y a pas très longtemps, je sais encore d'où je viens, on ne m'a pas retiré mon identité, tu vois. Malcolm X, pourquoi est-ce qu'il décide de s'appeler Malcolm X? Cassius Clay, pourquoi il décide d'enlever son nom, tu vois? Il
y a,
donné par le maître blanc. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même histoire. Ça, je le comprends bien. Néanmoins, en France, on subit quand même... malgré tout ça, comme je disais tout à l'heure, les Roland, je sais pas, ouais, les effets d'un passé qui est lourd à porter et qui est parfois, je pense, dur à assumer pour la France.
Ouais. Voilà. Dernière référence que je voulais évoquer, qui, alors moi je l'ai perçue comme ça, mais c'est peut-être pas ça, mais ôtez-leur toute humanité, qu'ils ne soient plus que des objets sans vie dès à présent. Moi, ça m'a fait penser à Get Out.
D'accord.
Alors, la scène.
Alors.
Wow. Now. Sink into the floor.
Wait.
Sink.
Sink in place. Flippant.
Mec, cette scène.
J'ai revu cette scène, j'ai waouh. Ouais.
Jordan Peele, c'est mon gars. Est-ce que blague à part, Jordan Peele, c'est mon gars.
T'es allé voir Us déjà?
Je suis pas encore allé voir.
Pas encore, ouais.
C'est pour ça qu'on n'a pas dit de spoiler.
Mais ce film-là, c'est vrai que ça a été un choc pour moi aussi. Je pense que c'est pas très longtemps après l'avoir vu que j'ai écrit PLB. Waouh, il est fort ce film. Il est super fort, Get Out. C'est, ouais, si je l'avais pas vu, j'aurais peut-être pas agencé les mots de la même manière, j'aurais peut-être pas mis tout ça, tu vois. Ça a été un film très fort. En fait, il m'a inspiré beaucoup ce film, ouais, c'est vrai.
Moi, j'ai envie de parler d'un autre truc, du coup, par rapport à cette histoire de procès, toujours. Tu es l'héritier, sans le vouloir, d'une longue tradition à la fois française mais également américaine de criminalisation du rap. Je pense que tu le sais. Dans ces deux pays-là, souvent, depuis très longtemps maintenant, on utilise, la justice utilise les paroles des rappeurs comme pièces à conviction pour mieux les condamner. Et les rappeurs étant, en très grande majorité, des hommes noirs, il faut le dire. Alors, aux États-Unis, l'histoire commence avec NWA, où la justice avait utilisé la loi pour... la police utilisait la loi pour disrupter et interrompre les concerts. On a également, par exemple, dans les années au tout début des années 90, le Two Live Crew, qui avait été attaqué en 90 pour obscénité et qui a failli créer un précédent. S'ils avaient perdu leur procès, ça aurait créé un précédent qui aurait pu presque tuer le hip-hop en soi, en fait. Parce que ça veut dire que tu pouvais pas utiliser de cursing, tu pouvais pas utiliser les mots fuck, les mots bitch, tu pouvais pas. Okay. Tu vois, ça a failli être un procès très très important. Okay. Et heureusement, ils ont gagné leur procès. Je te recommande à ce propos l'épisode de Hip-Hop Evolution sur Netflix, le docu Hip-Hop Evolution qui parle justement de cette histoire du Two Live Crew.
D'accord.
C'est super intéressant. On peut également évoqué Snoop Dogg, tu sais, en 96, il avait eu un procès pour meurtre, pas un meurtre qu'il avait commis, mais un meurtre que quelqu'un de son entourage avait commis. Et donc à ce moment-là, il avait été en procès et les jurés avaient joué les paroles de Murder Was the Case, pour mieux l'inculper. Et beaucoup plus récemment, YNW Melly, jeune rappeur de 19 ans qui a été inculpé il n'y a pas longtemps pour double homicide et dont les paroles de son morceau Murder on My Mind vont probablement être utilisées à son encontre alors que le morceau a été écrit et publié bien avant les faits. Ouais. Évidemment, bien après les faits, excuse-moi. Okay. Non, avant.
Avant.
En France, c'est pareil, on a le ministère amer avec Sacrifice de Poulet à l'ancienne, Sniper, Aurel San, j'en fais plus. Beaucoup plus récemment, on a Joel Feno, rappeur du 20e arrondissement, qui a été condamné en décembre 2017 à 2000 euros d'amende pour injure publique et incitation d'atteinte volontaire à la vie pour le morceau Bavure qui dénonçait les violences policières.
D'accord.
Bref, je vais pas faire un historique complet, tout ça pour dire que c'est quelque chose, les procès de rappeurs, c'est quelque chose qu'on connaît bien à la fois en France et aux States. Exactement. Et pourquoi je parle des States? C'est parce qu'encore une fois, ils ont un regard un peu plus clairvoyant sur la situation. Un rappeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Killer Mike, dit dans une vidéo du Huffington Post que pour lui, en fait, la criminalisation du rap et des rappeurs, c'est un prolongement des lois Jim Crow. Les lois Jim Crow, donc, qui sont les lois de ségrégation auxquelles le Civil Rights Act de Martin Luther King a mis fin. Donc, en gros, pour lui, la pénalisation du rap, c'est le prolongement de la ségrégation et de la suprématie blanche. Donc, est-ce que t'as ce sentiment-là, toi? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a une liberté d'expression à géométrie variable et qu'en tant qu'homme noir, tu es moins libre?
J'ai l'impression que lorsqu'il y a certains sujets sensibles qui pourraient faire avancer la société, là, voilà, c'est pas bon.
Ouais. Voilà. Ton procès, c'est le troisième procès en France pour racisme anti-blanc.
Ouais.
Alors, racisme anti-blanc, je voulais juste faire une petite parenthèse sur ça. En faisant des recherches, c'est un terme qui a été, on va dire, inventé, mis médiatiquement sur la scène par Jean-Marie Le Pen en 1988. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est rentré dans le langage courant, mais il faut aussi se rappeler d'où ça vient, quoi, ce truc.
Hein. Ça a été amené par...
C'est une idée d'extrême droite, en fait, ce truc de racisme anti-blanc.
Bien sûr.
Il y a avant toi, donc il y a deux cas en France de condamnation pour, avec plein de guillemets, racisme anti-blanc. En septembre 2010, mais alors là, pour le coup, on sort du domaine artistique, on sort de la musique. En septembre 2010, il y a un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a agressé dans le RER à Paris, qui est blessé par un autre homme armé d'un tesson de bouteille, et il se fait traiter de sale blanc et de sale français. Donc en première instance, le tribunal avait rejeté la circonstance aggravante de racisme parce qu'ils n'étaient pas bien sûrs, de un, que les propos avaient été tenus, et de deux, parce que le monsieur qui a tenu les propos anti-blanc était blanc lui-même. Donc ça, c'est un premier cas. Et puis après, la cour d'appel de Paris avait retenu la circonstance aggravante de racisme, ce qui a alourdi sa peine, 4 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Et puis plus récemment, avril 2016, pareil, la cour d'appel de Lyon a condamné à 3 mois de prison ferme un jeune de 22 ans qui avait insulté le passager d'un train, le traitant de sale blanc, de sale français. Et donc, il a pris 1500 euros d'amende et 500 euros de dommages et intérêts. Ouais. Ce que je pense qui est intéressant, c'est un peu la loi, en fait, la position un peu du gouvernement sur ces questions-là. Donc, pour rappel, le délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme a mis en ligne une note explicative qui s'intitule « Racisme et antisémitisme, rappel des principales infractions ». Et le truc, c'est la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, c'est 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si elle est publique, seulement 1 500 euros d'amende si elle n'est pas publique.
Si c'est chez toi, ça
si va. C'est chez toi, tu prends moins cher. Il y a ce que tu disais, François, sur le système qui se défend. Il y a effectivement dans cette position, on pourrait dire, la volonté de pas faire de distinction, en fait, et de dire que le racisme anti-blanc n'est pas une invention, comme tu disais, Mélanie, de Jean-Marie Le Pen des années 80, mais une vraie réalité qui est un fléau moderne
de
nos temps. Et voilà, c'est vrai que c'est pour moi, c'est d'une certaine façon, en tout cas, détourner le débat sur le racisme.
Ouais. Je trouve ça aussi marrant en termes de timing que ton verdict arrive quasiment simultanément de l'attentat de Christchurch, tu sais, en Nouvelle-Zélande, commis par un suprémaciste blanc qui en plus est venu manger le grain de la théorie du grand remplacement chez nous en France. Kevin, excuse-moi.
Ouais, ben justement, j'y arrivais. Donc, je te disais, enfin, ce que j'allais dire, c'est que à l'époque, dans l'ère, dans le contexte un peu post-Charlie, on voyait les réponses aux artistes qui provoquaient ont été assez musclées. On voyait de la radicalisation islamiste et de l'apologie du terrorisme un peu partout. Mmh. Et après la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, on découvre que le terroriste australien se serait radicalisé lors d'un voyage en France et qu'il mentionne à Paris, ouais.
Paris c'est noir. Important de le dire.
Ouais. Il est pas arrivé allé à Gare du Nord, il a fait oh putain.
Il est pas allé à Istres, c'est ça, Mélanie?
Et donc voilà, il y a ce voyage en France où il se radicalise, et puis il mentionne le concept du grand remplacement à plusieurs reprises, et ça soulève plein de questions très légitimes. Déjà, de un, qu'est-ce que c'est? Donc le grand remplacement, c'est un concept de Renaud Camus, intellectuel français de 72 ans, et ce concept est repris par des suprémacistes blancs aux quatre coins du monde. En gros, la population blanche se fait graduellement remplacer via l'immigration et les métissages. Et c'est bien évidemment le plus grand génocide du troisième millénaire, comparable à des atrocités du XXe siècle, point Godwin. Et tout ça se fait avec le consentement des leaders mondiaux, Emmanuel Macron en tête. Et voilà, cette théorie a envahi les esprits depuis 10 ans. Et pas seulement à l'extrême droite, ce que tu disais, Mélanie, mais beaucoup plus loin que ça. Il y a plein de noms qu'on ne citera pas aujourd'hui, qui ont écrit des éditos, des essais pour défendre cette thèse ou des choses assez proches.
Bah, c'est surtout qu'après l'attentat, on a vu sur les plateau télé, les mecs arriver et dire oui, c'est vrai que la théorie du grand remplacement, comme si c'était un truc universitaire.
Alors Marine Le Pen dit non.
Marine Le Pen dit non, mais les autres arrivent et disent oui, c'est vrai. Enfin, moi j'ai été ultra choquée en fait. Il y a des gens qui sont morts et la première personne à qui on va demander, c'est l'éditorialiste d'extrême droite, c'est Zemmour et compagnie. Alors vous en pensez quoi? Et le mec vient te raconter n'importe quoi. Enfin, c'est, moi je trouve ça ultra choquant.
Nick, qu'est-ce que. J'avais demandé qu'est-ce que t'en penses. Ouais, le fait que tu sois condamné pour racisme anti-blanc au moment même où on découvre que le suprémacisme blanc existe et donc que peut-être ce serait bien de le dénoncer.
Bah, Enfin, tu vois, enfin, pour moi, le procès l'a déjà démontré, tu vois ce que je veux dire. Et, pour l'instant,
le procès, il t'a donné tort.
Oui, il m'a donné tort, mais justement, s'il me donne tort, pour quelle raison il me donne tort?
Et puis, c'est surtout voilà, que dans ton procès aussi, on a parlé de suprématie noire.
Bah, voilà, mais la suprématie noire n'existe pas, messieurs-dames.
Moi, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux et aussi dans la bouche d'un humoriste qui s'appelle Haroun. Donc, c'est une question que j'ai pour toi. Est-ce que tu penses que la France est devenue la Syrie des suprémacistes blancs? On y fait un voyage et hop, on se radicalise. Et si oui, qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce que je peux répondre à ça?
Est-ce que tu te sens responsable? Est-ce que tu te sens coupable, responsable?
Est-ce que je peux répondre à ça? Non,
j'avais pas vu ça comme ça, mais...
Tu sais que pour une fois, la France est en avance sur les States parce que... Comme je te disais, troisième procès pour racisme anti-blanc et t'es considéré du coup dans les médias comme un suprémaciste noir. Ouais. Aux États-Unis, il n'y a eu aucun procès pour suprémacisme noir. Il y a des activistes noirs se font pourchasser par la justice pour plein de raisons plus ou moins fondées, plus ou moins fallacieuses, etc. On sait que par exemple les Black Panthers étaient à l'époque, tu sais, harcelés par les renseignements, etc.
Martin Luther King aussi.
Évidemment. Mais il n'y a jamais eu de procès pour l'instant pour suprémacisme noir jusqu'à l'an dernier, en fait, où il y a une enquête qui a été ouverte, le procès n'a pas encore commencé, d'un homme qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Qui, en gros, a été fiché par les renseignements, par le FBI, comme Black Identity Extremist. Ouais. Attends, est-ce que je peux retrouver son nom?
C'est à Dallas, mais je me souviens plus.
C'est à Dallas.
Nom, ouais. Christopher Daniels?
Christopher Daniels. Bref, le procès de Christopher Daniels va bientôt s'ouvrir et du coup, ce sera le premier procès américain pour extrémisme noir. Donc, pour une fois, on est en avance sur les States et je pense qu'il faut le noter. David, t'avais envie de parler encore de racisme anti-blanc?
Ouais, j'avais un petit cadeau pour toi parce que je pense que j'avais envie de faire un petit point historique et on a tendance parfois à prendre la violence au pied de la lettre pour ignorer la pertinence des revendications de celui qui parle. Mmh. Et donc du coup, pour toi, Nick, j'ai ça. C'est un petit bouquin. Alors, il n'est pas neuf, mais il m'a beaucoup servi il y a quelques années.
C'est quoi le titre?
Ça s'appelle « Lançons la liberté dans les colonies ». En fait, c'est une édition qui met en avant des grands discours historiques. Et donc là, c'est un discours qui s'appelle « Lançons la liberté dans les colonies » du 4 février 1794. Discours tenu par Louis-Pierre Dufay et le fameux Danton devant l'Assemblée. En fait, c'est assez radical et c'est surprenant parce que c'est des hommes blancs qui tiennent le propos. Ça commence comme ça. Nous attendons bien que les ennemis des citoyens de couleur et des noirs vont les calomnier auprès du peuple français. Ils vont les peindre comme des hommes méchants et indisciplinables, enfin comme des êtres cruels et féroces. Citoyens français, ne les croyez pas. Ceux qui tiennent ce langage sont des colons contre-révolutionnaires qui font la guerre à la liberté et à vous-même. Ne les croyez pas, ils vous ont trompé tant de fois. C'est assez radical. Ça vient, comme je disais, d'hommes blancs, donc c'est assez surprenant. À l'époque de la Révolution, justement, on n'a pas cette espèce de truc. Ah ben si c'est violent, on ne peut pas en parler. Ce petit bouquin, il y a à la suite un discours de Césaire de Senghor de 57 à l'Assemblée nationale où il dit notamment que si la France était une vraie république une et indivisible, il n'y aurait pas quelques dizaines, mais je cite, 300 députés noirs et arabo-berbères à l'Assemblée nationale. Ensuite, un discours de Christiane Taubira de 99 qui s'appelle La traite et l'esclavage sont un crime contre l'humanité qui va mener à la loi de 2001 qui officialise cette position esclavage, crime contre l'humanité. Comme au tribunal, on t'a dit que Malcolm X n'était pas une source ou une référence utilisable en France. La prochaine fois que tu te fais emmerder pour un son provocateur, genre par exemple manger les colons, tu pourras citer ces deux hommes blancs, Danton et Dufay. Et normalement, ils sont blancs et français, donc tout le monde devrait se détendre et tu nous diras si ça marche.
Voilà,
cadeau pour toi.
Merci.
Je t'en prie.
D'ailleurs, je pense pas que tu sois à court de références littéraires parce que tu cites notamment Fanon dans l'album. Donc,
ouais,
parlons un petit peu de l'album Révolution 2.0. Il y a beaucoup de références dans l'album, tout comme dans le livre de PLB, il y a toujours beaucoup de références. Ouais. Donc moi j'ai noté Fanon, Gilles Cotteron également, parce qu'à un moment Gilles Cotteron se trompe et que la révolution finalement sera télévisée.
Ouais.
Bon, en référence non littéraire, il y a Salif Keïta, il y en a d'autres. Pour commencer déjà, quel message finalement t'as voulu faire passer dans cet album?
Bon, en fait je pense que cet album il est arrivé vite parce que comme je te l'ai dit, PLB m'a frappé quand même, tu vois, émotionnellement parlant. Je suis pas inhumain, donc il y a plein de choses qui m'ont traversé. Et du coup, tout ce qui m'a traversé, qui m'a frappé vraiment fort, j'en ai profité pour l'écrire. On pourrait penser, enfin, si avec du recul, c'est un peu comme ça que moi je pourrais le voir. C'est un peu comme si PLB c'était un condensé, c'était un concentré que les gens enfin que les gens que les moins initiés, tu vois, ne pourraient pas comprendre. Je pense que Révolution 2.0 permet de comprendre certaines choses, tu vois.
D'accord. Voilà.
Pour ceux qui n'ont pas forcément, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le fait que en France, là, sur Paris, on est beaucoup, tu vois, dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, etc. Mais la France est quand même un pays blanc, tu vois ce que je veux dire.
Bien sûr.
Je crois qu'on est en tout et pour tout, tous les immigrés confondus, peut-être au maximum 15% en France. Mais tu vois, même, je crois que c'est un gros chiffre, tu vois.
Donc, un pays européen, ouais.
Ouais. Donc voilà. Et donc. Il apparaît possible, tu vois, il apparaît possible que le blanc ne se sente pas concerné, tu vois, même si finalement il l'est quand même, parce que c'est un monde qui est connecté, tu vois, et où tout le monde a sa part de responsabilité. Et donc voilà, je pense qu'il est quand même important que tout le monde sache de quoi le noir est fait, je pense. Ouais.
Justement, tu parles de quoi le noir est fait, et j'ai envie de te poser des questions sur ton rapport à l'identité noire. Il y a un morceau, un des morceaux qui m'a le plus plu, je pense, sur l'album, c'est le morceau Bounty.
D'accord.
Mais il m'a aussi un peu interpellé.
Ouais.
Tu dis dans le morceau que Omar Sy, c'est un Bounty, que Nicki Minaj, Kendrick, et en gros les Ricains, ils sont pas très renois. Je sais plus si c'est dans le même morceau, mais tu dis qu'en gros, tu vas sodomiser Beyoncé jusqu'à ce qu'elle fasse des concerts pour l'Afrique. C'est un discours un peu vénère. Qu'est-ce que tu veux dire par le fait, par exemple, que Omar Sy, c'est un Bounty? Enfin, qu'est-ce qu'il veut dire, ce morceau? C'est quoi un Bounty?
Enfin, Bounty, pour moi, ça veut, c'est le. C'est, comment je pourrais l'expliquer en des mots clairs? C'est le Renoir qui n'accepte pas sa position de Renoir, qui. On a parlé un peu d'Assimé tout à l'heure, qui joue le jeu de quelqu'un d'autre pour être accepté par la société. C'est ça, pour moi, le Bounty. C'est celui qui oublie aussi un peu d'où il vient, parce que finalement, c'est peut-être mieux. C'est peut-être mieux parce que ça permet de franchir certaines portes que t'as la négritude t'empêche de pouvoir atteindre.
Beyoncé, enfin non, Nicki Minaj, excuse-moi, et Kendrick qui sont pas très renois, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont américains, c'est parce qu'ils sont riches, occidentaux.
Non, c'est pas ça. Alors, dans le dernier album de Kendrick, il y a un morceau qui s'appelle Yeah, je crois, dans lequel il dit Don't call me a black no more.
D'accord, mais pourquoi il dit ça?
Il fait une O.J. Simpson.
Hein?
Il fait une O.J. Simpson.
Non, il dit. Non. Et puis après, j'ai pu lire quelque part qu'il avait dit, il appartient plus à la communauté renoir. Il appartient maintenant à un groupe hébreu noir.
Black Israelites.
Ouais, voilà, exactement, un truc comme ça. Tu vois, donc.
C'est un peu comme les Five Star Centers, non? C'est ça, c'est un peu comme les Nation of Islam.
Je sais pas, vraiment, je suis pas un sujet.
Je sais pas, mais pour moi, tu peux pas dire ça, tu vois. Je veux dire, tu peux pas dire, don't call me a black no more. Mec, je t'ai aimé parce que t'es renois, parce que tu revendiques des trucs, tu vois.
Ouais,
et c'est un peu cette idée-là que je sous-entends dans ce morceau-là, tu vois. Après, je parle d'Omar Sy parce que justement, tu vois, des fois, faut savoir prendre certaines positions. Quand justement, j'aborde ce thème-là, c'est la question de la Libye, tu vois. Lorsque l'histoire de la Libye éclate et l'esclavage qu'on connaît, on fait tous une marche, tu vois. On fait tous une marche, on se rend sur Paname et tout, c'est un truc sympa, mais on attend tous, tu vois, une personne qui puisse s'exprimer, une personne qui nous représente, voilà, une personne, quelqu'un qui nous représente, qui puisse être en capacité de prendre la voix pour nous et de, bon, après, il y a Claude Hichard qui l'ont fait, etc., mais.
Bien sûr.
Mais, voilà, quelqu'un qui est un peu, enfin, je sais pas. Et lui, il le fait pas. Mais par contre, juste après, quelques jours après, il va défendre la cause de quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, c'est pas que une souffrance ne vale pas une autre, c'est pas ça. C'est juste que c'est un adage français qui le dit. Charité, bien entendu, commence par soi-même.
Bien sûr.
Tu vois. Donc, je pense que c'est ça, c'est ce rapport-là avec la négritude qu'on a du mal à assumer en France. Et je pense ce qui fait aussi que c'est plus compliqué pour ceux qui sont en bas d'affirmer ce truc qui est pas à la base un truc mauvais. Tu vois. S'aimer soi-même ne veut pas dire détester les autres. Tu vois ce que je veux dire.
Médine dit ça aussi.
Voilà.
Donc,
juste pour rebondir sur Omar Sy, moi, il y a un truc qui m'interpelle un petit peu.
Ouais.
C'est notamment le fait que sa femme soit hyper plus engagée que lui publiquement sur ces sujets-là, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout. Et en fait, en y réfléchissant, tu te dis, bah, elle est blanche, elle a peut-être moins à perdre aussi, tu vois. Je sais que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à un moment donné, il faut arriver, il faut dire, tu vois, il faut prendre ses responsabilités.
Après,
mais en tant qu'homme noir, c'est peut-être plus compliqué, quoi.
Je sais pas si en tant qu'homme noir, c'est plus compliqué ou peut-être que t'as acheté dans un jeu où tu peux plus te permettre certaines choses.
Parce disons que tu restes pas la personnalité préférée des Français.
Tu vois, c'est peut-être ça aussi. Alors que, en fait, ce que je dis, c'est que Enfin, tu vois, j'ai pas cité n'importe quelle personne, tu vois. C'est pas parce qu'ils sont carrés, tu vois. Par exemple, Denzel Washington, pour moi, c'est un black person.
Un mec sûr.
Tu vois, c'est quelqu'un, tu vois.
Et Nicki Minaj, alors, du coup?
Bah, Nicki Minaj, je sais plus, elle avait dit un truc, je l'avais lu, là, du coup, je l'ai plus en tête, mais c'était un délire pareil, tu vois.
D'accord, ok.
Et du coup, c'est un peu ça. Mais voilà, c'est pas la question de l'américaine, d'où tu te situes dans le monde. C'est pas ça, c'est ton africanité, tu vois. Et j'aime bien les gens qui sont fiers de ça, tu vois.
D'accord. Ouais, ouais. Tu peux comprendre que c'est un truc qui puisse faire peur à certaines personnes, et notamment même de la communauté noire, ce ouais. rapport que t'as qui est très radical à l'identité. Ouais. Je crois que pendant le procès, on t'a pointé du doigt pour avoir retweeté ou liké un tweet de Dieudonné, par exemple. Mm-hmm. Je crois même que l'un des avocats de la partie civile disait que tu t'identifiais aux idées de Kémy Séba. Mm-hmm. Des gens, du coup, qui ne sont pas seulement noirs et politisés, mmh. mais également des gens qui sont dans un discours très très presque essentialiste, mmh. racialiste. Ouais. Et c'est quelque chose qui peut parfois transparaître dans tes lyrics. Je peux me gourer.
Ouais,
mais quand j'écoute des morceaux comme Tempête subsaharienne, mmh. J'ai l'impression de voir ces militants là, tu sais, panafricanistes, okay. et parfois très radicaux qui mmh. Retourne la pyramide, tu ouais. vois, du racisme, et pour ouais. finalement substituer le racisme d'État par un autre ouais, nationalisme, ouais. des nationalistes noirs, tout simplement, des okay. suprémacistes noirs.
D'accord.
Est-ce que tu t'identifies déjà à des mecs comme eux, par
pas
exemple?
Pas du tout. Tu vois, là, t'as cité, par exemple, quelques exemples auxquels je peux pas m'affilier, tu vois.
D'accord.
Déjà, moi, je fais pas de politique, je fais de l'art, tu vois. Mm-hmm. Et alors, tu t'as pris le morceau de Tempête subsaharienne, j'ai plus les lyrics en tête, mais ça, c'est, je fais la musique comme un film, tu vois, avec des scènes fortes pour te faire capter une image, tu vois ce que je veux dire.
D'accord.
Le but, c'est pas d'arriver comme tu dis, parce que c'est un peu ça, du coup, ce qu'on me reproche, c'est ce qui n'est pas vrai, tu vois, d'être raciste ou d'être radical. Enfin, tu vois, c'est des mots que j'aime pas, tu vois.
D'accord.
c'est des mots que j'aime pas, c'est des mots dans lesquels je me reconnais pas, tu vois, très simplement. Donc après, voilà, c'est ma après, oui, je pense que, par contre, il faut savoir être ferme quand même sur ses positions, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et la fermeté ne veut pas dire la radicalisation. Faut faire attention, quoi, aux mots qu'on utilise, parce que ça peut emmener dans des bourbiers, justement, tu vois. Et c'est ça, pour moi, la vraie zone de d'incompréhension, tu vois.
J'avais une question un peu plus perso à te poser, et si mmh. tu veux pas y répondre, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Je sais que tu es atteint de la drépanocytose.
Ouais, ouais.
Comme tu disais, Mel, au début de l'émission, c'est une maladie qui touche presque exclusivement les personnes noires.
Ouais.
C'est même la maladie qui a emporté Prodigy l'an ouais. dernier.
Ouais. Non, enfin, il n'est pas mort de ça, en fait.
Non, a priori, il serait mort pour un truc plus con, malheureusement. Mmh. Mais tout le monde savait qu'il avait la drépanocytose. Mmh. Est-ce que juste...
c'est grossier,
ouais. Ouais, est-ce que juste ça t'a influencé dans ton vécu, dans ta vision du monde, mais et notamment sûr. Ta vision de l'identité noire?
Mais bien sûr. Alors, mais bien sûr. Ben, forcément. Mmh. Alors, je commence par te dire que j'ai commencé, tu vois, on en parlait un petit peu, j'ai commencé la musique tôt, etc. Mais j'ai fait des grosses crises, tu vois, j'ai fait des grosses crises, je me suis retrouvé très, très, très longtemps et très souvent hospitalisé. J'ai eu une scolarité même un peu ratée à cause de mes hospitalisations. Et puis du coup, bien sûr, c'est comme ça que je veux commencer même à écrire, tu vois, parce que du coup, voilà, il faut bien que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai un petit goût pour les mots, tu vois, donc ça va venir comme ça. Mais alors, moi, si tu veux, oui, il y a mon rapport à la négritude, mon rapport à ma vie, mon rapport à mon combat même avec la vie, tu vois, dans le sens où tu t'en aperçois très rapidement quand tu rentres en maternelle, quand tu fais les cours primaires, etc. Noir, dans la vie, c'est pas facile. Malade, en plus, c'est pas facile. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui me... Waouh!
T'as cumulé un peu les tards.
Voilà. J'ai cumulé les trucs, et du coup, j'ai même... ma maladie m'a fait voir des choses qui, je pense, ne sont pas... Ça ferait peut-être un peu prétentieux de le dire, tu vois, ou je sais pas, ça ferait un truc bizarre, mais m'a amené à voir des trucs que le commun des mortels n'a pas vu. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
La mort m'a failli m'emporter par trois fois. Donc j'ai un rapport à la vie qui est immédiat, qui est direct. Mmh. Tu vois, j'ai pas envie de partir en ne faisant pas des choses. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie. Je sais qu'il y a des choses importantes à faire sur Terre et sur lesquelles on prend pas le temps de se pencher parce qu'on s'en fout. Après tout, on dit que demain ça ira. Tu vois? Mmh. Et moi, j'ai failli partir, tu vois, trois fois. Et ces expériences-là, je les ai encore dans la tête, moi, tu vois. Et donc, je sais que chaque seconde, chaque minute que tu vis est peut-être la dernière, tu vois. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi ça, tu vois, qui donne à ma musique ce caractère fort, comme tu dis. Parce que je préfère le mot fort. Voilà, peut-être ça, tu vois, plutôt que le mot radical, tu vois. Ouais. C'est ça qui donne à ma musique le goût de change la chose maintenant, tu vois. De PLB, c'est ça. Parce que je sais que, à tout moment, ça peut, tu vois. Et si je peux laisser ça sur terre pour qu'on se capte, gros, tu vois, pour que mon enfant, si j'en ai un demain, même si je suis pas là, il vive pas ce que moi je vis. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Il y a tout, en fait. La drépanocytose, ma négritude, mon amour aussi pour la négritude, tu vois. Parce que ma négritude m'a fait voir des choses magnifiques, tu vois. J'ai la chance, moi, de porter la double culture en moi, tu vois, le côté français et le côté africain, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose de magnifique que de pouvoir, apprendre à tout le monde, tu vois.
C'est vraiment, tu cites, dans les interviews ou dans ta musique, tu cites des sources ultra diverses, genre, Taboulaye Rochereau, Marvin Gaye, Salif Keita. Il y a un morceau sur l'album où tu parles créole vite fait, où tu parles.
Ouais, j'ai essayé. Ouais.
Pour les frères guadeloupéens.
J'ai essayé.
Ouais. Ça m'a fait triper. Mais oui, ouais, du coup, tu t'embrasses ça comme une richesse, quoi.
Bien sûr, parce que. Et puis, du coup, voilà, c'est ça. J'ai plein de potes, des Antillais, des machins, des trucs. Et je pense qu'on n'est pas. On n'est pas assez unis aussi entre nous, tu vois. On a pu en parler un petit peu tout à l'heure. Mais après, tu vois, comme je le dis, chacun fera son truc, tu vois. Chacun. On n'est pas obligé, tu vois. On n'est pas obligé de. Et puis, on n'est même pas obligé de partager mon avis, tu vois.
Bien sûr.
On n'est pas obligé.
Il y a plein de différentes manières d'être noir.
Bien sûr.
Et d'aborder
bien
la façon d'être noir.
Sûr.
C'est un spectre, quoi.
Bien sûr.
C'est comme la sexualité, c'est un spectre.
Voilà. Et voilà, après, moi, tant que je suis en face avec moi-même, c'est le plus important, tu vois.
D'accord.
Je voulais juste dire un petit truc sur PLB pour finir. Ouais. Est-ce que c'est pas le cauchemar des Blancs, en fait? Est-ce qu'ils se disent pas, en voyant ça, ils se disent pas, ah ouais, en fait, c'est vrai, on a fait tout ça, et si vraiment ça nous arrivait, la vengeance...
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, finalement. Bah, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense que c'est pour ça que ça fait la une de l'actualité. C'est qu'en mode, ils ont vraiment eu... Enfin, ils ont eu peur, quoi, gros. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? En mode... Et après, c'est ça, c'est le truc, c'est que... Après, on peut en parler pendant 1000 ans, tu vois. Malcolm X, il a dit la chose suivante, il a dit méfiez-vous des médias parce que les médias réussiront à vous faire passer l'oppresseur pour l'opprimé et vice versa, tu vois. Et la peur, c'est ce qui permet de, enfin, c'est avec ça qu'on manipule les gens souvent, tu vois. Il faut avoir du recul sur les choses, tu vois. Il faut avoir du recul.
D'accord. Ouais. Tu vas faire appel du coup de la décision de la justice. J'espère que t'es optimiste. Une dernière question, du coup, si c'était, t'es quand même passé par un sacré shitstorm. Si c'était à refaire, tu ferais tout pareil, j'imagine.
Absolument.
Très bien.
No regrets. Alors, en recommandation cette semaine. Première recommandation, parce que j'en ai deux. La première, c'est le podcast The Node, qui est un podcast de Gimlet, qui est un peu ma maison de podcast US préférée, que j'écoute sans m'arrêter. Donc, c'est un podcast qui est présenté par Brittany Luce et Eric Eddings.
From Gimlet Media, this is The Nod, a show about black culture from blackness's biggest fans. I'm Brittany Luce.
And I'm Eric Eddings.
Donc The Node, on en a déjà parlé en long, en large et en travers dans cette émission, parce que c'est un podcast que Kevin écoute aussi.
J'ai les yeux qui brillent. Là.
Voilà. Pour les non-initiés, The Node, c'est le signe de tête qu'on se fait quand on est noir.
Et qu'on se croise.
Donc ma recommandation, c'est un épisode particulier du podcast qui s'appelle Chidi and the Good Place.
Good Place.
Voilà, donc The Good Place, série comique disponible sur Netflix. Je dis ça en clignotant pour que vous regardiez. Donc c'est The Good Place, ça raconte les aventures de gens qui sont morts et qui sont envoyés au paradis. C'est intelligent, c'est drôle, c'est philosophique, c'est dingo. Et c'est par le créateur de Parks and Recreations.
Et de The Office. Je suis team Parks and Rec.
Voilà, donc autre grande série comique des années 2000-2010. Donc dans The Good Place, il y a un personnage noir qui s'appelle Chidi Anagonye et qui est le personnage préféré de beaucoup de gens, dont moi, parce qu'il est tout sauf un stéréotype. Chidi, c'est un professeur de philosophie morale et d'éthique qui est très très inhibé, très très stressé et très très incapable de prendre des décisions. Donc c'est de là que vient le potentiel comique du personnage. Mais il est aussi assez héroïque et un peu sexy, on va pas se mentir. Et dans cet épisode de The Note, donc, Eric Eddings interview Cord Jefferson, qui est scénariste de The Good Place, homme noir, et il parle de la blackness dans la série, du fait d'être anxieux, dépressif quand on est noir, ce qui est le cas de Shidi, et de comment en fait la writer's room de The Good Place fonctionne et traite le fait d'être noir dans l'afterlife, en fait, une fois que t'es mort. Est-ce que au paradis il y a des noirs?
Ça continue.
Est-ce qu'il y a encore du racisme? Comment ça se passe?
Tu sais que Tupac a fait une chanson qui s'appelle I Wonder If Heaven Got a Ghetto.
Ah.
Ouais. Il y pensait déjà.
Merci pour la ref. Et du coup, je trouve que l'interview, elle est vachement intéressante parce qu'elle donne un autre éclairage sur la série, celui de la blackness, en fait. Et raconte aussi l'expérience d'un auteur noir dans une newsroom qui est complètement blanche. Et les discussions autour du seul personnage noir au sein du paradis. Donc c'est intéressant parce que du coup, il y a des auteurs blancs qui disent « Ah bah Shidi, il devrait faire ça !» Et lui dit « Non, 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 non !» Enfin, dans For the Culture, « Non, non, on ferait pas ça, tu vois !» Et du coup, je trouve que c'est un épisode à écouter parce que c'est très intéressant de voir si le fait d'être noir empêche de kiffer le paradis. Et ma deuxième recommandation cette semaine, c'est le modèle noir, l'exposition au musée d'Orsay à Paris. Je sais que ça va faire plaisir à Kevin. Donc c'est une expo qui fait beaucoup parler, vu qu'elle représente une grande première un peu dans l'histoire des musées français. C'est la première exposition d'une grande institution française autour de la représentation des Noirs de France dans la peinture. Donc ça part de 1789, ça va jusqu'à 1950 environ, parce que on sait les musées, ils ont pas de problème à faire des expos comme Color Line où ça parle des Noirs aux États-Unis.
Les Noirs d'ailleurs.
Voilà, les Noirs de loin, mais les Noirs de chez nous, on a un peu de mal. Donc c'est la première fois. Et cette expo, c'est aussi l'occasion d'effectuer un petit rafraîchissement de mémoire, puisqu'elle lie étroitement la représentation des corps noirs dans l'art français à l'histoire nationale d'esclavage et de colonisation. On n'en sort pas, hein, au final. L'expo, elle débute par l'abolition de l'esclavage, 1794. On fait un petit cours d'histoire là dans le chip, hein. En passant par le rétablissement de l'esclavage, hein, parce que la première fois c'était une blague. Du coup, on rétablit l'esclavage en 1804, c'est le fait de notre ami Napoléon Ier. Puis l'abolition finale, cette fois c'est bon, en 1848. Et du coup, l'art qui est présenté traverse un peu la nouvelle peinture. Donc il y a des œuvres de Basie, Degas, Cézanne, mais bien sûr Manet, jusqu'aux avant-gardes.
Olympia.
Voilà, du XXe siècle, je vais y venir vite fait à Olympia. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu découvres qu'il y avait des peintres noirs en France à cette époque-là. Et là, c'est le choc. Donc, il y a des peintures de Toussaint Louverture et une peinture qui est très connue, qui s'appelle L'abolition de l'esclavage, ouais, de François-Auguste Biard.
Qui représente, voilà, Victor Schœlcher.
Voilà, les Blancs qui disent « ça y est, vous êtes, voilà, libres
voilà. !» Dans mon livre d'histoire.
Ah, voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai regard. C'est-à-dire que les textes à côté des œuvres, tu dis « ouais, bon, cette œuvre, elle est biaisée » parce qu'en gros, on lui a dit « ok, tu peux faire la peinture, d'accord, mais quand même, tu mets les Blancs et tu dis que c'est eux qui ont libéré les esclaves. » Quoi. Du coup, c'est vraiment, au-delà du fait juste de mettre en avant des peintures avec des modèles noirs en mode « où est Charlie ? Oh, il y a un noir là », ça va au-delà de ça. Et l'exposition, elle cherche vraiment à recontextualiser ses œuvres et surtout la vie des personnages mis en scène. Oui ?
Non, je voulais juste me la raconter, je peux ?
Oui, vas-y.
Lundi, tu demandais l'autorisation de te la raconter.
Lundi, j'ai fait une visite pour un groupe de gens. En fait, c'est une agence qui m'a renvoyé ce groupe-là et elle m'a juste dit « c'est des gens qui sont liés à l'exposition ». Donc, je récupère le groupe. Puis, il y a une dame qui pose vachement de questions, mais je ne sais pas qui c'est. Et à la fin, j'ai découvert
Angela
qui c'était.
Angela Davis.
Non, c'est la curatrice de l'expo.
Ah, mais oui, oui.
Voilà. Et à la fin, elle m'a dit que ma visite était bien. Voilà, c'est tout.
Bravo, Kevin. Tu es validé. Validé.
Voilà, c'est bon.
mais ouais, en fait, je trouvais ça vraiment intéressant de mettre la lumière sur ces personnages-là. Qui étaient ces gens? Hein, pourquoi ils sont sur les peintures? Comment ils s'appellent? Comment ils vivaient? Est-ce que c'était des esclaves? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et visiblement, c'était aussi des artistes, donc je trouve ça intéressant de voir comment ils créaient. Parce que, en fait, c'est ça que ça m'a fait réaliser cette expo, c'est que malgré l'esclavage, malgré la discrimination, malgré la colonisation, il y avait quand même des gens noirs qui arrivaient à être eux-mêmes artistes, modèles, musiciens, à une époque où, en fait, ils étaient discriminés de partout, quoi, et ils arrivaient à vivre de leur talent. Il y a notamment Joseph, qu'on peut citer, du coup, originaire d'Haïti, modèle star de l'époque, qu'on retrouve notamment sur le tableau très connu qui est le Radeau de la Méduse, de Théodore Géricault, et qui a posé un peu partout pour tout le monde, tous les gens qui comptaient à l'époque. Voilà,
on le voit dessiner, vieillir, en fait, ouais, à travers. Ouais.
Et du coup, c'est vrai que de nos jours, je pense que Joseph, il aurait eu un peu 50 000 abonnés sur Instagram. Tu vois.
500 000.
C'était une vraie resta, quoi. Alors juste vite fait un petit détour sur l'idée de cette exposition, parce qu'on peut se demander pourquoi d'un coup nous faire cette offre. Elle est venue grâce à la chercheuse de la Fondation Ford, Denise Murel. Qui est venue présenter à Paris sa thèse sur Olympia de Manet, effectivement, donc, qui était une peinture très connue qui a été présentée en 1865 au Salon. Donc, c'est le célèbre tableau avec la prostituée allongée nue sur son lit et une servante noire à gauche, en haut, qui tient un bouquet de fleurs. Donc, Denise Murel, elle s'est demandé qui était cette servante noire dans le tableau et quelle était sa relation avec Manet, comment elle était arrivée là. Et du coup, elle a fait vraiment sa thèse sur ça. Alors, là, maintenant, je viens juste à moi, ce que j'ai ressenti dans cette expo, dans mon petit cœur. C'était saisissant, c'était un peu surréaliste, en fait. Je voyais, il y avait des jeunes filles qui se prenaient en selfie devant le portrait de Madeleine de Marie Guimine, Benoist, en disant hey, « c'est dans le clip de Beyoncé et Jay-Z, dans Ape Shit et tout !» Donc, elles font un selfie. On entend des vieilles dames qui passent devant les tableaux et qui font « Ah oui, c'est typique de la musculature des Noirs !» Donc voilà, on voit des murs entiers de cadres avec des modèles noirs partout, alors que d'habitude c'est plutôt l'inverse. D'habitude, quand tu t'es au musée, t'es là, tu fais bon, est-ce qu'il n'y a pas des portraits où il n'y a pas que des blancs? Là, c'est l'inverse, tu fais putain, ils sont où les blancs? et à la fin de l'expo, il y a un truc qui m'a vachement plu, c'est Ophélia inversée. Donc Ophélia est noire et la servante avec les fleurs est blanche et elle lui offre une tête de mort qui est le cadeau de.
Ophélia ou Olympia?
Olympia, pourquoi je dis Ophélia?
Olympia.
Excusez-moi. Olympia, du coup, qui est allongée sur le lit, qui est noire, et la servante avec les fleurs qui lui offre une tête de mort qui symbolise le cadeau des Blancs à l'Afrique. Donc voilà, et ce côté aussi, le renversement de Olympia, ça m'a fait penser à Beyoncé, quand elle se fait servir dans son clip par les Blanches. Voilà. Donc voilà, c'est assez surprenant. À la sortie de l'expo, il y a une grande tablée de merch. Il y a plein de livres. Donc moi, j'ai pris la Condition Noire de Papendaï, ouais. Toni Morrison. Il y a plein de trucs à acheter qui sont vraiment cool. Donc voilà, je recommande. L'expo, elle est visible du 26 mars au 21 juillet 2019 au Musée d'Orsay à Paris.
Alors moi j'ai une recommandation, c'est d'ailleurs Nick, une de tes inspirations, ou en tout cas quelqu'un que tu mentionnes, que tu name drop dans ton album, c'est, on a déjà parlé, Jill Scott Heron. On va dire qu'il fait une sorte de poésie, on pourrait dire du spoken word. Il est surtout connu du grand public pour son titre « The Revolution Will Not Be Televised »,« La Révolution ne sera pas télévisée ». Toute son œuvre est intéressante. Mais j'ai envie de recommander deux morceaux en particulier. Le premier, c'est Whitey on the Moon. Il faut écouter l'intro de la chanson qui est assez drôle. Il explique lui-même de quoi il s'agit.
We have a poem here. It's called Whitey on the Moon. And it was inspired by some whiteys on the moon. So I want to give credit where credit is due.
J'ai un poème qui s'appelle « Le blanc sur la lune » qui m'a été inspiré par « Des blancs sur la lune ». Je tenais à rendre à César ce qui appartient à César. « To be on the moon », c'est être dans la lune, mais c'est aussi être sur la lune, c'est être un peu fou ou alors complètement défoncé en anglais. C'est un texte de 1970, donc l'époque de la conquête spatiale, et Jill, qui est un artiste noir engagé, démontre avec ironie l'indécence de cette conquête spatiale menée par des hommes blancs, alors que la grande majorité de la population noire vit encore dans la précarité. Il continue en décrivant cette injustice de façon très concrète. « Ma sœur vient de se faire mordre par un rat, mais le blanc est sur la lune. Je peux pas payer le médecin et le blanc est sur la lune. Mon proprio vient d'augmenter le loyer parce que le blanc est sur la lune. Bref, vous l'aurez compris, c'est du racisme anti-blanc. Mais du racisme anti-blanc mignon. Il y a eu une reprise dans Man on the Moon de Damien Chazelle par Leon Bridges. J'ai pas vu le film. Mais il y a aussi un deuxième morceau que je trouve vraiment d'actualité à sa façon. C'est un morceau qui s'appelle We Beg You Pardon. On vous demande pardon ou excusez-moi. En fait, c'est la suite d'un morceau qui s'appelait Watergate Blues. Et en fait, pourquoi c'est d'actualité? Parce que ça parle d'un président, un président des États-Unis qui a eu des ennuis avec la loi, mais qui n'ira jamais devant les tribunaux. Je ne parle pas de Donald Trump, mais je parle de Nixon. Donald Trump, no collusion. Bref, Jill Scott, il est mort en 2011. Et même si son nom n'est pas toujours très bien connu du grand public...
On dit souvent que c'est le père du rap, par exemple.
Il a bien sûr... Toute cette postérité dans le rap, son rapport aux mots, au spoken word, etc. Et comme je disais, même si son nom n'est pas connu du grand public, il a beaucoup été samplé, repris, cité. You carry yourself, but if you let me,
Here's what I do. I take care of you.
Je sais pas faire Rihanna. ce morceau, I Take Care of You, il a été remixé par Jimmy XX, un producteur anglais, et qui avait déjà remixé, en fait, qui a remixé tout l'album de Jill, qui s'appelait, l'album s'appelait I'm New Here, c'est son dernier album, et l'album de remix s'appelle We're New Here. Donc ça va donner ce tube qui a été, donc du coup, qui utilise un sample pour le morceau Take Care de Drake featuring Rihanna. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, justement, il y a quelques semaines, il y a eu un épisode de La Source. La Source, c'est un podcast hors série de No Fun, produit Binge, qui est présenté par Raphaël Dacruz. Et en fait, voilà, ils expliquent d'où viennent le sample. Et en fait, le morceau I Take Care of You, c'est déjà une reprise d'un vieux bluesman dont j'ai oublié le nom, qui vient du Tennessee. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi ? C'est aussi une histoire musicale, comment une chanson peut être connue par des publics différents. C'est-à-dire que I Take Care of You ou Take Care, ça va être connu par des gens qui s'intéressent à la scène post-dubstep, à des gens qui l'ont découvert par Rihanna, à des gens qui ont découvert la version d'Eric Clapton, à des gens qui se la pètent parce qu'ils connaissent Jill Scott Heron. Enfin, il y a plein de façons différentes de rentrer dans ça. Donc je trouve que c'est aussi un échange intéressant, et bien sûr on vous mettra la référence
dans les notes
dans la référence. Je suis fatigué. Voilà.
Alors moi, ma recommandation, ce sera Pastel pour la culture. C'est une page
c'est comme
Instagram.
Comme les pastéis de Nathan. Non.
C'est les pastels, tu sais, qu'on mange.
C'est les trucs à bouffer. Ouais.
C'est les trucs à bouffer, tout à fait.
Ah,
mais c'est
cool.
Pas les pastéis, c'est les pastels.
Ben
c'est
ouais, mais moi je le prononce à la portugaise, tu vois. Mais
non,
ouais.
c'est pas les trucs portugais.
Ah.
C'est les trucs qu'on mange en Afrique de l'Ouest. Je peux pas vous dire directement tous les pays, mais c'est des espèces de pâtés. On a ça aussi aux Antilles. Ça ressemble un peu à nos pâtés, vite fait à nos pâtés de Noël, non? Un petit peu.
Les pâtés de Noël, ça ressemble plus aux trucs sud-américains, les empanadas, non?
Ben,
là, ouais, les pastels, c'est pas tout à fait la même
non,
la
c'est
même
pas,
consistance.
C'est pas la même consistance, c'est pas la même
mais
pâte.
Oui,
mais bon.
Nick, t'as un
l'idée.
Avis sur la question ?
Non. c'est que je connais pas. Mais ça, je crois, ça m'évoque quelque chose, mais je suis pas sûr.
Ouais, non, mais j'en ai mangé une fois et j'étais très, très, très bon. Bref, Pastel pour la culture, c'est une page Instagram et ça s'accompagne également de playlist Spotify et c'est une page sur le rap ou le néo-rap maintenant, comme faut l'appeler apparemment. Merci les Inrock. Bref, en gros, c'est une page de rap qui te fait découvrir des artistes de rap français, souvent underground, souvent indé. Il donne beaucoup de force à, par exemple, à Lyonzon, qui est un crew de Lyon, Jordi, Slimka, donc le Suisse Slimka, ouais, Triple Go, les rappeurs de Montreuil, enfin le rappeur de Montreuil et le producteur, qui est un groupe que j'aime beaucoup. En gros, c'est un groupe qui faisait du PNL, mais bien avant PNL.
D'accord.
Et dont je vous conseille leur nouvel album Macha Kill, qui est vraiment excellentissime. Bref, Pastel pour la culture, c'est des chroniques vidéo de 1 minute, donc c'est ultra facile à consommer. T'as un extrait de clip, tu écoutes la musique et en fait t'as des notes. T'as des notes qui s'affichent à l'écran, une note pour les lyrics, une note pour l'instru, une note pour le flow, une note pour le visuel. Et à la fin, t'as un petit échange de SMS avec l'artiste qui a partagé son clip. Donc le mec va vraiment parler aux artistes et il leur fait un retour sur ce qu'il a pensé du clip et du morceau. C'est super ludique, c'est super facile à consommer, comme je vous disais, comme un pastel. J'ai fait beaucoup de découvertes grâce à cette page. Je la trouve vraiment très pointue, avec une belle identité visuelle, avec un code couleur.
C'est nouveau ?
C'est pas nouveau, ça a peut-être 1 ou 2 ans, okay. Mais ils ont que 4000 abonnés, donc c'est en quelque sorte nouveau.
Est-ce que c'est là que t'as entendu 13 blocs pour la première fois et qu'après t'as fait le snob en disant la France ne mérite pas ce groupe de rap, truc
comme
ça?
Bonne question, c'est peut-être. Non, je crois pas que ce soit via Pastel pour la culture que j'ai connu 13 blocs.
Il a trop de sources pour nous.
C'est ça.
Mais il donne beaucoup de force à 13 blocs, c'est marrant que t'en parles. Bref, voilà, ils ont à peine 4000 abonnés sur Instagram et franchement, ce qu'ils font, c'est vraiment.
On n'a pas 4000 abonnés sur Instagram, hein, je te rappelle.
Ok, alors franchement, ça vient d'où ça ? Bref, donner de la force à Pastel pour la culture, je répète, Pastel pour la culture.
Et aussi
sur Instagram.
À l'Instagram du chip, peut-être ?
Et à l'Instagram.
Abonnez-vous là !
Mais ça, on va le dire à la fin, wesh, calmez-vous un peu.
Voilà, c'était l'épisode 313 du Chip. On revient dans 15 jours. Nick,
yes.
Merci. Je pense que c'est peut-être l'émission la plus longue, non ?
Je pense que ça va facilement.
On a fait 2h30
voilà,
là.
On est dans les temps.
Merci d'avoir été avec nous.
Ouais, merci vraiment.
Révolution 2.0.
Révolution 2.0, c'est sorti le 22 mars. Et allez vous faire une opinion vous-même. En attendant, vous pouvez nous suivre sur le Twitter et l'Instagram du Chip. Les deux fois, c'est @lechip. Athletic Podcast.
Athletic ouais. Podcast.
Am I right?
Yes.
Laissez-nous une review sur Apple Podcast ou n'importe où vous écoutez des podcasts. Vous mettez 5 étoiles, vous dites que c'est bien. Et comme ça, vous nous faites remonter dans le classement.
Et parlez-en aux gens autour de vous parce qu'on nous dit qu'on ne fait pas assez de pub.
On fait pas
c'est
assez de pub.
Ouais.
C'est vrai qu'on n'est pas assez homme sandwich de l'émission. Faudrait ouais. qu'on.
On va arranger ça. On va arranger ça.
Je vais me faire un tatouage visible, un tatouage sur le cou, un face-tat, le chip. Bref, en attendant, cette émission a été réalisée par Quentin Bresson.
Qui veut rentrer chez lui.
merci, et on revient dans 2 semaines. Bye bye.
Salut.
Bisous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.